Chapitre 50. Le crédit social aux États-Unis en 1932, voté par 289 députés contre 60. Article d'Alain Pilote, paru dans Verdemain de juillet à août 1985. Il est évident que le crédit social est la solution pour les États-Unis et pour chaque pays dans le monde. Alors, comment le crédit social peut-il être appliqué aux États-Unis? Si les républicains et les démocrates ne veulent pas l'inclure dans leur programme, les Américains doivent-ils alors voter pour un nouveau parti? Le Bill Goldsborough. Non, pas besoin d'un nouveau parti. Seule l'éducation du peuple est nécessaire. Quand les pressions provenant du peuple seront assez fortes, tous les partis seront d'accord pour adopter la réforme du crédit social. Un bel exemple de cela peut être trouvé dans le Bill Goldsborough de 1932, qu'un auteur a décrit comme étant la réforme monétaire qui est venue le plus près de réussir en vue de l'établissement d'une monnaie véritablement saine aux États-Unis. Une majorité écrasante des membres du Congrès américain, 289 contre 60, était déjà en faveur de la loi, de cette loi en 1932, et cela dure encore depuis, sous une forme ou sous une autre. Seul l'espoir fut-il que le nouveau président d'alors, Roosevelt, puisse rétablir la prospérité sans abandonner le système d'argent-dette dont l'Amérique avait hérité, empêcha le crédit social de devenir la loi des États-Unis. En 1936, lorsque le New Deal, solution de Roosevelt, se montra incapable de régler efficacement la crise économique, les partisans du crédit social revinrent en force. Le dernier effort significatif pour gagner son adoption survint en 1938. W. E. Turner, Stable Money, page 167. Même le dividende et l'escompte compensé, deux éléments essentiels du crédit social, étaient mentionnés dans ce projet de loi, qui fut surnommé Bill Goldsborough, du nom du député démocrate du Maryland, T. Allen Goldsborough, qui le présenta en chambre pour la première fois le 2 mai 1932. Deux personnes qui soutiennent le projet de loi retiennent particulièrement notre attention. Robert L. Owen, sénateur de l'Oklahoma de 1907 à 1925 et directeur de banque pendant 46 ans, et Charles G. Binderup, député du Nebraska. Owen publia un article en mars 1936 dans la revue de J.J. Arpel, The Instructor, et sa version française, Le Moniteur, dont Louis Evans était le rédacteur adjoint. Quant à M. Binderup, il donna plusieurs causeries à la radio américaine durant la crise pour expliquer les méfaits du contrôle du crédit par des intérêts privés. Voici les extraits du discours de Robert Owen à la Chambre le 28 avril 1936. Le projet de loi Kill-Goldsborough présenta alors, avec l'approbation du comité sur les banques de la Chambre, et je crois que ce fut pratiquement un rapport unanime, ce projet de loi fut débattu deux jours à la Chambre, un très simple projet de loi, établissant la politique des États-Unis de rétablir et de maintenir la valeur de la monnaie, et ordonnant au secrétaire du Trésor, aux officiers de la Commission de la Réserve fédérale et aux banques de la Réserve fédérale, de rendre cette politique effective. C'était tout, mais suffisant, et le bill passa, non par un vote partisan, 117 députés républicains votèrent en faveur de ce projet de loi, qui avait été présenté par un député démocrate, et le bill passa par 289 voix contre 60, et de ces 60 députés, seulement 12 par la volonté du peuple, sont encore au Congrès. Ce bill fut défait par le Sénat parce qu'il ne fut pas réellement compris. il n'y avait pas eu suffisamment de discussion à son sujet dans le public. Il n'y avait pas d'opinion publique organisée pour l'appuyer. L'éducation du peuple. Tout est là. Deux choses à retenir. Républicains comme démocrates votèrent en sa faveur, et il n'y eut donc point besoin de parti du crédit social. De plus, Owen admet que ce qui manquait, c'était l'éducation du peuple, une force dans le peuple. Cela confirme la méthode de verre de main, préconisée par Douglas et Louis Evans. Il faut éduquer la population, soit en distribuant des circulaires et prenant de l'abonnement à verre de main. Le bill Goldsborough était intitulé « Loi pour rendre au Congrès son pouvoir constitutionnel d'émettre de la monnaie et d'en régler la valeur, de fournir un revenu monétaire à la population des États-Unis avec un pouvoir d'achat fixe, équitable, du dollar suffisant en tout temps pour permettre à la population d'acheter les biens et les services désirés selon la pleine capacité des possibilités du commerce et de l'industrie des États-Unis. Le système actuel, qui émet l'argent à travers l'initiative privée pour le profit, résultant en fréquentes et désastreuses inflations et déflations, doit cesser. Le projet de loi prévoyait aussi un escompte sur les prix à être remboursés aux marchands et un dividende devant commencer à 5 $ par mois en 1932 à chaque citoyen de la nation. Plusieurs groupes témoignèrent en chambre en faveur de ce projet de loi, faisant ressortir qu'il contenait tous les mécanismes nécessaires pour empêcher toute inflation des prix. Ignorance de la population. Le plus ardent opposant à ce projet de loi au Sénat était Carter Glass, ancien secrétaire du Trésor et farouche partisan de la Federal Reserve, contrôle privé de la monnaie. Aussi le secrétaire du Trésor, ministre des Finances, de Roosevelt, Henry Morgenthau, fortement opposé à toute réforme monétaire, disait qu'il valait mieux donner une chance au New Deal de Roosevelt. Ce qui aida le plus les adversaires du bill, c'est l'ignorance quasi totale de la question monétaire dans la population, et même dans le Sénat. Certains sénateurs ignorant même jusqu'au mécanisme de la création de l'argent, crédit, par les banques, s'écriaient « Mais le gouvernement ne peut pas créer de l'argent comme ça. Ça va faire de l'inflation. » Et d'autres, tout en admettant la nécessité de la création d'argent sans dette, ne voyaient pas la nécessité du dividende ou de l'escompte compensé. En fait, toutes ces objections tombent d'elles-mêmes après une étude un peu sérieuse du crédit social. Terminons cet article avec les citations de deux grands citoyens américains, Thomas Edison et Henry Ford. Edison. À travers notre histoire, quelques-uns des plus grands Américains ont cherché à casser l'empreinte hamiltonienne, l'argent-dette d'Alexandre Hamilton, sur notre politique monétaire, dans le but de substituer une monnaie stable en fonction des besoins physiques de la nation. Un manque de compréhension dans le public et chez les autorités, combiné au pouvoir des intérêts bancaires qui ont machiné des intérêts personnels dans la présente situation chaotique, ont jusqu'ici contrecarré tout effort. Ne les laissez pas vous embarrasser avec le cri de monnaie de papier. Le danger du papier-monnaie est précisément le danger de l'or. Si vous en avez trop, ce n'est pas bon. Il n'y a qu'une règle pour l'argent. Et c'est d'en avoir assez pour mener tout le commerce légitime qui attend d'être fait. Si les États-Unis adoptent cette politique d'augmenter leur richesse nationale sans rien payer aux collecteurs d'intérêts, car toute dette nationale est faite d'intérêts à payer, alors vous verrez une ère de progrès et de prospérité dans ce pays qui n'aurait jamais pu arriver autrement. et un appel dans réforme. La jeunesse qui pourra résoudre la question monétaire fera plus pour le monde que toutes les armées de l'histoire. Jeunes, affamés de vérité et de justice, avez-vous compris? Joignez les rangs des apôtres du journal Vers Demain pour le salut de votre pays et de tous vos concitoyens. Les pèlerins de Saint-Michel ont besoin de vous. Ils vous attendent.